Salut Philippe.
Salut Patrick.
Donc, OK, la grande compagnie de câbleaux distribution, de communication, Rogers, hein, très active oui. au Canada anglais, avait failli acheter Vidéotron jadis naguère.
Tout à fait.
Et donc, n'a pas eu sa tête de pont au Québec, mais dans le reste du Canada anglais, c'est une grosse compagnie, propriétaire aussi d'équipes sportives. Là, il y a une guerre fratricide dans la compagnie et tout ça a un impact sur les Raptors.
Oui, les Raptors, puis en fait, l'ensemble des propriétés sportives de Rogers, puis c'est pour ça que je veux en parler. D'abord, il faut situer Rogers, tu l'as bien fait là, sur le plan des télécommunications, gros joueur dans le câble, la téléphonie cellulaire, mais également un énorme joueur dans le sport. Rogers est propriétaire de 37,5% des actions des Maple Leafs de Toronto, du Toronto FC, des Argonauts et des Raptors, en plus d'être propriétaire majoritaire avec la pleine possession des actions des Blue Jays de Toronto, de la Ligue américaine de baseball. Donc, on le voit là dans le sport professionnel
gros
nord-américain.
Joueur.
Gros joueur, parce que les équipes de Toronto, on le sait, ils engendrent des revenus spectaculaires.
Oui.
Alors là, il y a une chicane chez Rogers. Comment tout ça commence? Écoute, c'est absolument abracadabrant, cette histoire-là. Ça fait la manchette des journaux de Toronto depuis une semaine. Je ne compte plus le nombre de papiers que le Globe and Mail a consacré à cette histoire-là. Alors, le président de Rogers, Joe Natale, apprend qu'il y aurait un putsch contre lui la semaine dernière, qui est en train de se faire, qu'on voudrait le tasser. Et derrière ce putsch-là se trouve le fils du propriétaire de Rogers, mais le propriétaire, Ted Rogers, est décédé.
L'héritier.
L'héritier, donc. Et c'est Edward Rogers. Et lui, il veut remplacer le président qui est là en poste par le directeur des finances. Ça s'ébruite. Le président le sait. Il y a un conseil d'administration qui est convoqué en toute hâte la semaine dernière. On s'ostine de bord en bord et finalement, on décide d'appuyer le président. C'est lui qui va rester en poste et de retirer le rôle de président du conseil d'administration de Rogers à Edward Rogers. Et c'est très particulier parce que parmi les gens qui votent pour lui retirer ce poste-là, il y a sa mère puis ses deux sœurs. Alors, inutile de dire que ça fait jaser à Toronto. On est dans une émission de télévision.
On est dans Succession.
Exactement. On est dans Succession. C'est comme si c'était...
Ça va être le fun à Noël.
Oui, ça va être le fun à Noël.
Pas beaucoup de cadeaux sous le sapin.
Non. Alors là, Edward Rogers, furieux d'avoir été démis de ses fonctions, et il dit, ben écoute, c'est pas bien compliqué, je vais fonder un nouveau conseil d'administration parce que c'est moi qui est le patron de la fiducie familiale, puis c'est moi qui contrôle les actions, c'est que je vais bâtir un nouveau conseil d'administration, je vais enlever du conseil tous les gens qui ont voté contre moi, je vais garder ceux qui ont voté pour moi, puis je deviens président de la compagnie. Il a fait ça hier, dimanche, et là, ben évidemment, on s'en doute, la suite c'est quoi? C'est que ça va se retrouver devant les tribunaux. Il y a deux conseils d'administration à l'heure actuelle. Mais ça joue dur. Ça joue dur parce que là, il y a des révélations qui commencent à être faites à propos de Edward Rogers. Et le Toronto Star, ce matin, en fait sa une au grand complet, là, à pleine page. Et c'est comment Edward Rogers a tenté de faire en sorte que Masai Ujiri, le président des Raptors de Toronto...
Figure très aimée.
Plus que très aimé. Il est adoré. C'est un gars exceptionnel. Qu'il ne revienne plus avec les Raptors. Pourquoi? Parce que Ujiri son contrat était terminé. Il devait négocier une nouvelle entente. Et cette entente-là, là, tenez-vous bien, il y a finalement une nouvelle entente. Il est resté, c'est 15 millions de dollars par année pendant 5 ans. Et on dit que il y avait une offre plus élevée que ça encore d'une autre équipe de l'Association nationale de basketball qui lui offrait même 3% des actions de l'entreprise avec un salaire plus élevé. Il y a des équipes de la Première Ligue anglaise, une équipe, semble-t-il, qui l'aurait approché aussi. Tu sais, ça donne une idée de la dimension de ce gars-là. Mais pendant les tractations pour négocier son contrat, il y a rencontré Edward Rogers. Puis Edward Rogers n'a pas aimé cette rencontre-là. Il dit, il est arrivé à au chalet d'Edward Rogers, Ujiri, puis il y avait deux gardes du corps et tout. Puis là, Ujiri dit, c'est pas vrai du tout, j'avais mon chauffeur, puis j'avais un documentariste qui m'accompagnait parce qu'il travaille sur un projet à l'heure actuelle. Mais tu sais, quand tu dis là, que le courant n'a pas passé entre les deux, et là, finalement, Rogers a appelé Ujiri en disant 15 millions de dollars, c'est bien trop, moi, je ne veux jamais te donner ça. Alors là, Ujiri a été insulté, c'est quoi mon avenir avec l'équipe? Mais finalement, finalement, Rodgers n'a que 37,5% des actions des Raptors. Ils n'ont pas toutes les actions. Alors, il n'était pas dans une position pour trancher par lui-même. Et finalement, c'est le Toronto Star l'explique bien, les autres partenaires ont réussi à conserver les services et à donner à Ujiri ce contrat-là. Les autres l'approuvaient tous parce que Rodgers connaissait mal la façon de procéder de l'Association nationale de basketball. C'est que le gouverneur des Raptors, c'est celui qui a 25% des actions. Un gars qui s'appelle Larry Tannenbaum. Alors, je rappelle, 37,5% pour Rodgers, 37,5% pour Bell. L'autre 25%, c'est Larry Tannenbaum. Mais c'est lui qui est le gouverneur. Et il y a une règle dans la NBA qui l'ignorait, semble-t-il, Edward Rodgers. C'est que c'est problématique pour une équipe, une ligue de sport, quand c'est des intérêts minoritaires.
Oui, ils veulent un interlocuteur. Ben oui,
qui décide? C'est, à coup, ça prend. Alors, il y a une règle qui dit, à l'interne, qui dit le gouverneur, celui qui est nommé comme gouverneur par les partenaires, c'est lui qui décide. Ben, c'est lui qui tranche.
Philippe, ça doit être la même chose dans la LNH. C'est-à-dire, monsieur Molson n'est pas le seul propriétaire du Canadien. Mais c'est lui qui parle pour le Canadien.
Ben, c'est ça, exactement. Alors, j'imagine que les structures juridiques peuvent être différentes et tout. Et là, ben, Tannenbaum il a décidé de donner le contrat à Ujiri.
Mais ce monsieur Rodgers, là, il a pas, ce que tu me racontes, là, qu'on pense qu'on veut du salaire donné à monsieur Ujiri puis les autres athlètes et gestionnaires de sport professionnels, je veux dire, ça demeure cette industrie-là qui commande ces salaires-là. Parfait. Monsieur Rodgers, il a l'air un peu d'un amateur là-dedans.
Ben là-dedans, il a pas bien paru là-dedans, mais là à l'heure actuelle, il mène le combat de sa vie là, parce que c'est sûr que si jamais il perd cette bataille-là pour savoir qui va diriger Rodgers, ça va être très difficile pour lui de revenir par la suite. Là. Puis c'est un combat familial en plus, c'est incroyable quand on y pense. La mère, ses deux sœurs contre le frère, c'est du jamais vu, je pense, pour une entreprise de cette dimension-là, une entreprise publique. Ne l'oublions pas, on peut acheter des actions à la bourse de Rodgers. Donc, ils ont un devoir de rendre bien des choses publiques au niveau des états financiers et tout. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du Canada, l'histoire canadienne, là, sur tout ce qui peut se passer dans les grandes entreprises. C'est une histoire absolument incroyable, dont de nouveaux chapitres vont s'écrire au cours des prochaines heures. Mais tu vois qu'il y a du mauvais sang, parce que le Toronto Star, ils ont fait un travail formidable pour sortir cette histoire-là, mais il y a quelqu'un qui avait avantage à ce que cette histoire-là sorte pour le faire mal paraître. Il n'y a pas de doute là-dessus aussi.
Et ça a fonctionné.
Et ça a fonctionné.
Merci Philippe, toujours un plaisir. On se retrouve demain. Au retour, on va parler de la question de la relation pas très facile entre le gouvernement caquiste et la communauté trans.